Bienvenue pour cette émission consacrée à l'histoire. Je vous propose d'évoquer cette semaine le Concile Vatican II et de voir comment celui-ci a eu une influence importante à la fois dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire du monde en général, puisque les conséquences de Vatican II se sont fait ressentir à la fois dans le monde chrétien et dans le monde profane. Nous avions évoqué Vatican II la semaine dernière avec mon invité Yvon Trenevoise et je vous propose de poursuivre cette semaine pour voir notamment la réception de Vatican II. Yvon Trenevoise, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Brest. Vos recherches ont porté essentiellement sur l'histoire du catholicisme et notamment l'histoire du catholicisme en Bretagne. Et vous venez de publier chez Desclée de Brouwer un ouvrage consacré à Vatican II qui s'intitule « L'ivresse et le vertige ». La semaine dernière, nous avions évoqué le moment historique Vatican II, les raisons pour lesquelles il y a eu ce concile, et puis un petit peu le bouillonnement intellectuel de cette époque. Je voudrais cette semaine, dans cette émission, évoquer plutôt les conséquences de Vatican II. Les conséquences au niveau international, mais aussi les conséquences au niveau local, parce que la particularité de votre ouvrage et un de ses intérêts principaux, c'est que vous évoquez à la fois, vous étudiez l'histoire au niveau international et puis au niveau local à travers l'étude du cas breton. Mais avant d'aborder ça, dans votre introduction, vous présentez un petit peu votre méthode de travail et notamment vous vous positionnez par rapport à un ouvrage qui a fait grand cas parce qu'il a apporté beaucoup à la réflexion sociologique, qui est l'ouvrage de Guillaume Cuchet, qui s'intitule « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » et qui date de 1965, le moment où il y aurait eu la rupture précise entre un monde chrétien et un monde qui aurait cessé de l'être. Vous reprenez donc l'ouvrage de Guillaume Cuchet en critiquant au sens propre, c'est-à-dire en analysant sa thèse, et vous vous positionnez de manière un petit peu différente avec votre propre méthode historique et sociologique. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ce que vous avez essayé de faire et comment vous vous positionnez aussi par rapport à la méthode sociologique de Guillaume Cuchet, sachant que vous êtes plutôt historien que sociologue?
Oui, et Guillaume Cuchet est aussi historien fondamentalement. Mais alors, comment dire, il y a plusieurs choses là. D'abord, l'apparition du livre de Guillaume Cuchet en 2018 était une chose extrêmement importante parce que je crois que c'est la première fois qu'on levait, comme il le dit lui-même, un tabou, qui est ce tabou de ce qu'il appelle la sanctuarisation idéologique de Vatican II. Il y avait une sorte de consensus jusque-là pour en quelque sorte ne pas aborder les sujets qui fâchent, c'est-à-dire dans quelle mesure Vatican II est-il, d'une manière ou d'une autre, une des raisons du détachement religieux que l'on aperçoit ensuite. Alors, Guillaume Cuchet ne fait pas de Vatican II la raison de la crise que l'on a connue par la suite. Il dit simplement que il y a eu dans Vatican II quelque chose qui a accéléré ou précipité des mutations qui étaient déjà en cours. Et en ce sens, c'est vrai qu'il le va un peu à l'encontre de la thèse dominante précédemment, qui était celle de Daniel Hervieux-Léger et de Denis Pelletier, par exemple, thèse qui consiste à dire que fondamentalement, ce sont les mutations sociales lourdes qui se sont produites depuis les années 50 qui ont en quelque sorte emporté la pratique religieuse comme le reste. Et au fond, l'Église aurait vu le tapis se dérober sous ses pieds, comme d'autres institutions, partis politiques, syndicats et autres, ont été atteints par la même crise. Donc il y a ce débat-là qui est un débat intéressant. Moi, je trouvais que Guillaume Cuchet avait raison de poser quand même la question de ce que le Concile Vatican II avait produit de fait, et pas forcément volontairement, et notamment quand il insiste sur l'idée que avec Vatican II, on est sorti de la culture de la pratique obligatoire. Jusque-là, la pratique religieuse était une obligation, et puis le Concile, en quelque sorte, a appelé les chrétiens à la responsabilité, les a laissés un peu plus libres, si vous voulez. Et cette liberté, ça s'est traduit par un certain détachement religieux, pas immédiat d'ailleurs. Donc voilà, j'ai voulu dans ce débat-là entre deux écoles historiques ou sociologiques, j'ai voulu, moi, apporter ma pierre. Alors, avec deux originalités, peut-être. La première, c'est que j'ai moi-même été impliqué dans les années 60-70. Enfin, j'étais étudiant à Paris à la fin des années 60 et au début des années 70, donc j'ai connu de l'intérieur ce qui se passait, et notamment au sein de l'extrême-gauche catholique, si vous voulez, en étant dans une revue positionnée là. Et puis, la deuxième chose qui me paraissait importante, c'était de redonner un peu de chair, enfin un peu de concret, de vécu à toutes ces années, et donc j'ai préféré travailler sur des dossiers particuliers, ce qui me permet de citer un certain nombre de textes d'époque et de montrer, au fond, ce qui a été vécu, alors soit au sommet parisien dans quelques chapelles un peu groupusculaires, soit à la base, dans des diocèses, notamment bretons, que je connais bien.
Alors, partons en Bretagne, justement, puisqu'effectivement, vous connaissez bien la Bretagne et vous l'avez abondamment étudiée. Je vous rappelle que vous étiez professeur à l'Université de Brest. La Bretagne, vue en 1950-1960, c'est, je dirais, peut-être la terre catholique par excellence. On imagine un enracinement très profond des traditions, d'une culture chrétienne et une région qui vote d'ailleurs majoritairement à droite et pour des candidats se revendiquant du monde chrétien. Et on a l'impression, et d'ailleurs c'est même plus qu'une impression, qu'en l'espace d'une 10-15 ans, ce monde-là se dérobe complètement, à tel point que la Bretagne est devenue ensuite une terre de gauche, voire une terre d'extrême-gauche. Et vous montrez dans votre ouvrage que cette imprégnation chrétienne n'était peut-être pas aussi forte, aussi importante qu'on l'a longtemps pensé.
Oui, alors on l'a pensé longtemps, et je commence par le rappeler. Vous savez qu'il y a eu dans les années 50 en France toutes sortes d'enquêtes de sociologie religieuse qui ont été animées notamment par le chanoine Boulard qui essayait donc pour le compte de l'épiscopat de donner un peu une photographie de la France religieuse. Et les diocèses bretons, comme les autres, ont fait l'objet d'enquêtes qui ont montré que, disons à la fin des années 50, eh bien, la chrétienté bretonne était une réalité impressionnante avec des taux de pratiques religieuses considérables. Souvent à plus de 60% de gens allant à la messe tous les dimanches, enfin, dans des proportions qui ne se trouvaient pas forcément ailleurs, et à la limite même, ces scores étaient jugés trop bons par certains clercs qui pensaient qu'il ne fallait pas se reposer sur une civilisation paroissiale apparemment bien établie, mais qu'il aurait fallu mettre en œuvre disons, des pastorales nouvelles à base d'actions catholiques spécialisées qui auraient permis de faire face aux évolutions qui venaient. Sans doute, en effet, on n'avait pas tort de penser que les choses allaient changer, mais on ne pensait pas que ça allait changer aussi vite. Alors, pourquoi ça s'est écroulé Alors, pas immédiatement dans les années 70, hein, on voit des décrochages dans les années 70 qui sont assez spectaculaires, parce que notamment, il y a un certain nombre de gens qui quittent, et notamment dans le clergé, on a des défections dans le clergé qui frappent l'opinion. Mais, disons, la pratique religieuse en Bretagne ne s'écroule pas dans les années 70. C'est, je dirais, une génération plus tard que les choses vont réellement décrocher fortement. Mais, donc, il y a quand même le sentiment que un substrat d'habitude catholique n'était peut-être pas aussi, aussi solide, hein, qu'on l'avait imaginé.
Quel lien est-ce qu'on pourrait faire avec les mouvements indépendantistes bretons, qui sont plutôt des mouvements de gauche, voire d'extrême gauche, et parfois des mouvements qui reprennent l'histoire païenne ou druidique de la Bretagne? Est-ce que vous pensez que ça a joué un rôle, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas de rapport direct?
Alors, le mouvement breton, le renouveau du mouvement breton dans les années 70, ce qui me frappe, c'est qu'il a largement ignoré l'Église catholique. Et c'est une rupture intéressante parce que longtemps, l'idée bretonne et l'idée catholique avaient semblé aller de pair. Et il y a eu là aussi, au niveau du moment des années conciliaires, quelque chose d'étonnant, c'est-à-dire qu'au fond, si on se place en termes de liturgie, par exemple, l'une des modifications profondes introduites par Vatican II, c'est que d'une liturgie en latin, on est passé à une liturgie en français. Le catholicisme conciliaire parle français, mais il ne parle pas breton. Et un certain nombre de prêtres très soucieux de la langue bretonne se sont battus en vain pour qu'il y ait une liturgie post-conciliaire en breton. Ils ont été peu nombreux, pas écoutés, etc. Et donc il y a un virage là qui a été sans doute raté en Bretagne et sans doute moins raté au Pays Basque, par exemple. Vous voyez. En tout cas, bon, on a le sentiment qu'il y a une sorte de déconnexion qui se fait entre le mouvement breton et l'Église. Et cette déconnexion, elle s'est confirmée depuis. Il a fallu attendre 2003 pour que l'évêque de Vannes, Mgr Gourvès, essaye de relancer une pastorale qui ferait une place aux Bretons, hein, avec l'idée justement que l'Église tirerait profit du renouveau identitaire breton, si vous voulez. Mais cette lettre pastorale elle-même a été suivi d'assez peu de choses, en tout cas il y a peu de vrais résultats concrets. Donc c'est assez curieux de voir cette déconnexion qui s'est produite à ce moment-là, en effet, entre la cause catholique et la cause bretonne, si je peux dire.
Oui, d'autant que le breton est assez peu parlé, enfin, il y a un renouveau, oui. Certes, mais enfin c'est pas une langue courante.
Non, alors c'est la question de la langue d'une part, là, le nombre de locuteurs n'a cessé de baisser, mais disons que la dimension identitaire, si vous voulez, en Bretagne, il est plutôt à la hausse. Il y a actuellement quelque chose là qui est très frappant sur le plan culturel en général. Et l'Église aujourd'hui est en quelque sorte un peu en marge de ce renouveau identitaire breton.
Autre aspect qui est intéressant de la Bretagne, est-ce que on peut distinguer peut-être différentes régions en Bretagne, la région de Rennes, Vannes, Saint-Malo, Brest. Est-ce que le décrochage est quelque chose qui est identique et similaire partout en Bretagne, ou est-ce que quand on fait une analyse géographique plus fine, on peut remarquer des différences selon les départements ou selon les régions?
Alors oui, la Bretagne est extrêmement partagée. Vue de loin, on dit la Bretagne a longtemps été catholique, ça a été une terre de chrétienté, mais quand on regarde de plus près, on s'aperçoit que c'est plus compliqué. Il y a de vrais bastions catholiques qui sont très ciblés, notamment il y a le Nord Finistère, ce qu'on appelle le Léon, qui est une sorte de bastion clérical qui est resté une terre chrétienne très longtemps, et une autre région, si vous voulez, qui est celle de l'Est du Morbihan, le Vanté, si vous voulez, où là aussi il y a une forte tradition de pratique chrétienne. En revanche, vous avez une sorte de diagonale, pas du vide, mais enfin d'une moindre fidélité religieuse, disons, entre Tréguier et Lorient, pour dire vite. Mais ce qui est original en Bretagne aussi, c'est qu'il y a eu assez précocement, dès la fin du XIXe siècle, une sorte de catholicisme qu'on appelle un catholicisme bleu, c'est-à-dire un catholicisme qui restait fidèle, si vous voulez, ses membres, si je puis dire. Enfin, c'est ce qu'on appelle les catholiques bleus, c'est des gens qui étaient fidèles à l'Église en matière religieuse, mais qui refusaient de suivre les consignes politiques du clergé. Donc un catholicisme non clérical, si vous voulez, par opposition à un catholicisme blanc qui, lui, était plutôt, comment dire, lié aux aristocrates traditionnel, ou un catholicisme noir très lié, alors là, au pouvoir du clergé proprement dit, comme on le voit en Léon. Donc vous voyez, c'est une terre assez diverse si on la regarde de près.
On a coutume de dire qu'une des raisons qui pourrait expliquer cette déchristianisation rapide, c'est le fait que le clergé catholique est passé à gauche et est devenu communiste et aurait emporté, justement par cléricalisme, les ouailles avec eux. Est-ce que, quand on étudie les textes historiques comme vous l'avez fait, est-ce que cette idée commune, on peut la valider, ou est-ce qu'au contraire, c'est une idée fausse?
Moi, j'aurais tendance à ne pas la garder. Enfin, ça ne me paraît pas fondamental. Je crois fondamentalement que c'est les changements sociaux profonds qui se sont produits, la diminution très rapide de l'agriculture traditionnelle, le changement du modèle familial, la disparition des familles nombreuses. Les familles nombreuses, ce sont quand même ces familles qui fournissaient évidemment le clergé, enfin prêtres et religieux et religieuses se recrutaient dans ces familles nombreuses, dès lors que le modèle familial s'est rétréci, tout ça s'est effondré. Donc il y a toute une série de piliers qui se sont effondrés. Et c'est ça, à mon avis, qui est essentiel à ce niveau-là. Alors, ensuite, qu'un certain nombre de catholiques passés par l'Action catholique, souvent la CEU ou l'autre, et rejoint ensuite les rangs de la gauche, et notamment du nouveau Parti socialiste, dont ils ont été quand même un élément important. Donc ça a joué, mais je pense qu'on a là des catholiques qui sont éventuellement restés catholiques dans le privé, si je peux dire, qui n'ont plus revendiqué leur catholicisme souvent dans leur action politique, et qui quelquefois, eh bien, ont fini par perdre la foi comme on se débarrasse d'un vêtement superflu. Vous voyez? Enfin, je suis frappé du nombre de militants qui, à un moment donné, enfin, qui sont arrivés au syndicalisme ou à la politique par le catholicisme, au nom d'une exigence catholique, au nom d'une exigence chrétienne forte, et puis qui, à un moment donné, ont trouvé, enfin, de quoi se suffire dans cet engagement lui-même. Et la religion disparaît parce qu'elle devient superflue.
Si on quitte la Bretagne pour revenir à l'Église universelle, vous évoquez dans le titre de votre ouvrage L'ivresse et le vertige, ce vertige justement d'un monde qui se dérobe et qui change très vite après le Concile. On espérait une nouvelle Pentecôte, on espérait un renouveau, et on a l'impression que c'est au contraire la tempête et l'adversité qui arrivent, à tel point qu'il y a ce discours célèbre de Paul VI qui évoque les fumées de Satan qui se sont introduites dans l'Église. Comment est-on passé de l'un à l'autre, enfin de cet espoir immense à la fin du Concile, à une désillusion quelques années plus tard et à une sorte d'effondrement, perçu comme tel parfois par certains, du monde chrétien?
Oui, alors là, je n'aborde qu'une partie du problème que vous évoquez, et je l'aborde par les extrêmes, par l'extrême gauche. Hein. Ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai parlé de vertige. D'abord, c'est un mot qui s'est imposé à moi parce que je le voyais apparaître souvent dans les documents que je traitais. En effet, il y a un espoir considérable au moment du Concile, et ensuite un vertige qui vient du fait que la réflexion, si je peux dire, et les pratiques s'emballent. C'est-à-dire que les remises en cause vont très loin, mais il y a un moment donné où elles apparaissent, comment dire, comme elles vont jusqu'à dissoudre en quelque sorte la foi d'où l'on venait. Et donc je suis très frappé de voir qu'au milieu des années 70, eh bien, on arrive par exemple à des réflexions sur des lectures, par exemple, de la Bible, qui sont assez étonnantes, des lectures matérialistes de l'Évangile, ou de la Bible en général, qui sont des analyses très décapantes, mais qui finissent par détruire en quelque sorte tous les fondements de la foi. Et là, je vois deux types de réactions, vous voyez, soit des gens qui tirent les conséquences de ces analyses décapantes qu'ils mènent et qui abandonnent en effet le christianisme, et d'autres qui se disent à un moment donné, mais il faut qu'on arrête, il faut revenir au spirituel de manière volontariste, hein. Ce que résume assez bien, je crois, le titre d'un ouvrage célèbre de Maurice Clavel, hein, Dieu et Dieu, nom de Dieu, oui, une manière de dire, mais voilà, il faut recadrer les choses, revenir au spirituel, réinterroger radicalement les choses, en finir avec une sorte d'effet dissolvant, si vous voulez, qui se précipitait depuis une dizaine d'années.
Ce qui est un peu votre parcours, enfin, vous l'évoquez dans l'ouvrage, donc je ne fais que vous citer, mais c'est un petit peu ce
Oui,
que.
je fais partie de ceux qui ont ressenti en effet cette impasse des lectures matérialistes, qui en effet étaient extrêmement séduisantes, bien intellectuellement, si vous voulez, mais qui ne pouvait en quelque sorte mener qu'à l'incroyance. Vous voyez, enfin, c'est un petit peu, en tout cas, moi, comme cela que je l'ai ressenti. Alors, c'est vrai que c'est une des particularités de ce livre, et J'ai beaucoup hésité pour ce. Et pendant longtemps, je me refusais à travailler sur cette période parce que je considérais que c'était trop proche et que j'avais vécu cela. Et donc, en quelque sorte, l'historien, normalement, il travaille sur un passé refroidi qu'il n'a pas connu. Et puis, en fait, je me suis quand même aperçu que j'avais un avantage à avoir vécu ces années, c'est-à-dire d'avoir un certain nombre de documents, souvent peu connus et voire disparus, parce que c'était l'époque de l'Église polycopiante, vous savez, où on jetait à la poubelle beaucoup d'éléments qui étaient sous une forme comme ça assez médiocre. Et moi, j'ai tout conservé par réflexe d'historien. Donc, j'avais quand même un certain nombre d'éléments et d'éléments de compréhension interne, je crois, qui pouvaient apporter quelque chose que de plus jeune collègue n'apporterait sans doute pas.
C'est vrai que c'est un des éléments très, très attrayants dans votre ouvrage et qui apporte beaucoup, c'est que vous citez énormément les revues, vous citez aussi des personnes, je ne vais pas dire secondaires, mais en tout cas qui n'étaient pas, qui n'étaient pas les plus visibles, mais qui ont eu un rôle important en arrière-plan, enfin des intellectuels qui ont produit des revues, qui ont créé des mouvements d'action, qui ont apporté de la réflexion, des gens qui dont le nom aujourd'hui n'est plus connu, mais qui dans le bouillonnement intellectuel des années 1960-1970 ont apporté beaucoup et ont contribué à faire avancer certaines thèses.
Ah oui, alors si j'avais à choisir, je vous dirais que les deux héros, entre parenthèses, de mon livre sont Bernard Béret, donc le prieur de l'abbaye de Beaucain, qui a été démis de ses fonctions en 1969 parce qu'il avait eu l'imprudence de proposer une année sabbatique pour que tous les clercs puissent remettre en cause le célibat qu'ils avaient choisi précédemment, pour une sorte de mise à plat pour vérifier si l'authenticité de ce choix restait toujours judicieuse. Et l'autre, donc, héros, entre guillemets, encore une fois, c'est Michel de Certeau, le jésuite, qui me paraît être un des esprits les plus lucides, les plus brillants, les plus lucides sur ce qui s'est produit à l'époque et sur la profondeur de la crise qui était en jeu derrière toute cette agitation militante à laquelle il participait, mais un peu à la marge.
Et quel est le rapport aussi, alors plutôt maintenant dans les années 1970, au tiers-mondisme, au mouvement de décolonisation, parce que la décolonisation s'est achevée en 1960, mais ces mouvements révolutionnaires, attirance notamment pour les mouvements en Amérique latine, en Afrique, est-ce que ce sont des choses qu'on retrouve là aussi au sein de l'Église de France, voire en Bretagne?
Oui, alors les années 60 sont les grandes années du tiers-mondisme catholique, avec donc un engagement très fort de toutes sortes de gens qui sortent des mouvements d'action catholique. Ça a été très bien montré par un de mes collègues, Charles-Édouard Arang, hein, qui a montré comment les jeunes catholiques découvraient le monde, et donc le tiers-mondisme étant la suite logique d'un engagement souvent d'action catholique. Et puis les années 70, il y a une sorte de modifications très, très fortes, là, qui est non plus l'aide au tiers-monde, mais l'engagement aux côtés des révolutionnaires des pays donc en lutte. Vous voyez, donc ce côté engagement auprès donc des pays sud, enfin des mouvements de libération sud-américains. Voilà, c'est l'engagement révolutionnaire qui devient un peu la chose la plus attractive pour des jeunes militants chrétiens. C'est un changement de, comment dire, d'horizon assez frappant.
Et est-ce que on le retrouve également chez le clergé, notamment chez les évêques, cet élément-là, ou est-ce que ça reste au niveau des laïcs et plutôt de la base?
Ah ben, les évêques des années 70 sont surtout soucieux d'essayer de faire face à tout ce qui se passe, à tout ce qui bouge et à, comment dire, d'organiser une sorte de pluralisme qui leur échappe. J'évoque dans l'un des chapitres de mon livre ce texte très important de 1972 par lequel les évêques français ont théorisé le pluralisme politique, hein. Alors, on peut dire, c'est bizarre, mais bien entendu que les catholiques avaient des positions politiques diverses auparavant, mais officiellement, il y avait, si vous voulez, toujours une l'idée que d'un vote catholique qui devait se faire, en tout cas d'une fidélité à un certain nombre d'intérêts, si vous voulez, qui étaient ceux de l'Église. Et là, maintenant, À partir de 1972, on a une sorte de pluralisme politique qui est admis, théorisé, et je dis de manière un peu perfide, peut-être que les évêques, là, acceptent de n'être plus autre chose qu'une sorte d'autorité de régulation du marché, si vous voulez, sur un marché libre des options politiques dans le catholicisme. Donc, pour revenir à votre question, je crois que les évêques sont moins dans l'accompagnement ou la critique de ceci ou de cela que dans le souci de contrôler, de canaliser ce qu'ils peuvent canaliser dans un monde catholique, en tout cas militant, qui est extrêmement, extrêmement divers et souvent contradictoire à ce moment-là.
Finalement, en conclusion de cet ouvrage, de cette émission aussi, comment est-ce que, ou quelle analyse vous faites de cette explosion, alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire à la fois explosion intellectuelle, foisonnement, remise en question, effondrement de la pratique, et quel rôle finalement a joué Vatican II, un rôle de modérateur, d'accélérateur, ou peut-être aucun rôle, les choses seraient venues quoi qu'il arrive?
Je pense que les choses seraient venues quoi qu'il arrive, mais elles seraient sans doute venues autrement, et sans doute ont-elles été accélérées par l'effet Vatican II. Mais en même temps, je voudrais pas que laisser l'idée de quelque chose de noir. Enfin, mon collègue Denis Pelletier a parlé joliment des belles années de crise du catholicisme français. C'est pour ça qu'il y a aussi une ivresse dans mon titre. Je pense que ces années, nous sommes un certain nombre à les avoir vécues comme des années d'espérance extraordinaire. Alors, sans doute y a-t-il eu des erreurs, des illusions, mais qui sont apparues évidemment après coup. Mais c'était en effet des années, en tout cas que moi j'ai vécues comme fortement enthousiasmantes, mais dont un certain nombre de failles, si vous voulez, nous ont échappé, et sans doute parce que les failles les plus profondes, elle nous échappait aussi, enfin, elle relevait de mutations sociales trop lourdes pour qu'on puisse y faire face.
C'est-à-dire que finalement, c'est un monde qui change, et l'Église étant liée au monde, puisqu'elle étant du monde aussi, elle change avec lui, et de la manière que la société française a connu une accélération alors, du fait des évolutions techniques, sociologiques et autres, le monde chrétien a suivi finalement ces mêmes évolutions.
Oui, alors le sol bouge et en plus on danse dessus. Alors évidemment, on se casse la figure.
Bien, merci beaucoup, Yvan Tranouet, d'avoir évoqué ces années Vatican II. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'ivresse et le vertige, qui est paru chez Desclée de Brouwer, où il y a beaucoup de choses pour comprendre cet événement important à l'échelle du monde, et puis aussi pour comprendre ces années effectivement enthousiasmantes, où il s'est passé beaucoup de choses dans les années 1950-1970, que l'on commence aujourd'hui à mieux comprendre aussi avec l'effet du temps et avec l'effet des archives qui s'ouvrent et qui permettent de mieux l'étudier. Merci en tout cas d'être venu à notre micro et de nous avoir présenté ainsi le fruit de vos travaux et de vos recherches.